Denis Dumoulin est professeur d'histoire dans un lycée de la ville suisse de Sion et passionné par l'histoire des relations entre son pays et les pays tchèques. Nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion de cet entretien réalisé le 16 mars 2010 par Alexis Rosenzweig.
Panorama.
Panorama.
Bonjour Monsieur Dumoulin.
Bonjour.
Vous êtes intéressé depuis quelques années à l'histoire des relations entre votre pays, la Suisse, et la République tchèque.
Oui, ça m'intéresse surtout par le nombre des contacts qui ont existé tout au long de l'histoire entre les pays tchèques autrefois et la Tchécoslovaquie plus tard et la République tchèque aujourd'hui. Ça n'a pas quelque chose de très original. On aurait pu trouver avec des choses identiques avec d'autres pays, mais là, il me semble qu'il y a énormément de choses dans plusieurs domaines et à presque chaque époque.
C'est-à-dire que dans ce que vous avez pu, de vos connaissances et dans les recherches que vous avez déjà pu effectuer, faire remonter ces liens à bien avant l'indépendance de la Tchécoslovaquie.
Ah, certainement, il y a même une très grosse surprise quand on découvre que chez Jules César, il y a une mention des Boyis, c'est-à-dire des ancêtres des Bohémiens et des Tchèques, avec les Helvètes, un siècle avant Jésus-Christ. C'est tout à fait étonnant et ça se poursuit au Moyen-Âge et ça se continue à l'époque de la guerre de 30 ans et à l'époque du 19e. Pratiquement à chaque époque, il y a des contacts, peut-être un peu anecdotiques, mais très régulier en tout cas.
Notamment avec un personnage sur lequel vous avez écrit quelques lignes en tout cas, qui s'appelle William Ritter.
Alors William Ritter est, semble-t-il, beaucoup plus connu à Prague et en République tchèque que chez nous en Suisse. Il est un de ceux qui, par exemple, a découvert l'Europe centrale, un de ceux qui était de langue française, qui a découvert l'Europe centrale et notamment la musique. Il a fait la première biographie en langue française de Smetana. On le voit aussi être ami de Mahler. Mahler aurait peut-être dédié une de ses symphonies à Ritter. Et puis, il est aussi le personnage qui défend un peintre comme Stravinsky. Et évidemment que tout cela a fait beaucoup pour la connaissance du monde culturel tchèque dans les pays francophones. En dehors de cela, c'est évidemment un personnage plus discutable sur bien des aspects, notamment sur son antisémitisme, mais ça fait partie de cette époque du tournant du XXe siècle qui est si riche au point de vue culturel.
Un antisémitisme affiché qui a fait l'objet de débats jusqu'en France où ce personnage de William Ritter a fait l'objet de colloques, il me semble. Plus tard, ces liens entre la Tchécoslovaquie, pas encore née, et la Suisse sont marqués par quelques événements également ponctuels, et notamment d'un discours prononcé par Tomáš Garrigue Masaryk en 1915 à Genève. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, lorsque Masaryk quitte ce qui n'est pas encore la Tchécoslovaquie à l'époque, lorsqu'il quitte Prague en 1914, il passe à Genève pour entrer en contact avec certains Tchèques avec qui il constitue une sorte de groupe de résistance. Et il est prévu d'y rester simplement une journée ou deux. Il va en fait rester plusieurs années en Suisse, avec des interruptions, et à Genève et à Zurich en 1915, il prononce une conférence à l'occasion du cinquième centenaire de la mort de Jan Hus, et c'est à cette occasion qu'il va, une des premières fois en tout cas, parler du projet de la constitution d'une Tchécoslovaquie moderne. Et dans l'histoire de la Tchécoslovaquie, la conférence de Genève est considérée comme une des toutes premières étapes. À Genève, on a continué à cultiver le souvenir de cet épisode, aussi bien à la Société des Nations que dans l'hôtel où Masaryk était descendu. Et cela a été une étape au moins aussi importante que celle que l'on trouve avec la déclaration de Washington, par exemple.
Les liens entre Masaryk et la Suisse ne s'arrêtent pas là, puisqu'il a eu également de la famille en Suisse.
Oui, alors sa fille Olga a épousé un médecin genevois, le docteur Révillaud. Ils ont eu deux fils, et c'est ainsi que le président Masaryk avait deux petits-fils genevois qui sont fréquemment venus passer leurs vacances estivales à la propriété de Lagny. Malheureusement, ces deux fils ont connu un destin assez tragique. Ils sont morts les deux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais les liens ainsi de Masaryk avec la Suisse romande étaient au moins aussi importants sur le plan familial que sur le plan historique, par exemple, ou politique.
Est-ce qu'il reste des traces de Masaryk en Suisse ?
Alors, il y a les bâtiments, les salles qui rappellent le souvenir de son passage à Genève. De plus, une rue est dédiée à son nom à Genève, et il est certain que parmi les Tchèques émigrés en Suisse romande, le souvenir de Masaryk en Suisse romande est resté extrêmement vivace. C'est quelque chose de très important, surtout si l'on pense que Masaryk était le seul homme politique d'Europe centrale qui défendait une idée de démocratie humaniste, fraternel. C'était tellement rare à l'époque que ça ne pouvait qu'intéresser les Suisses aussi à cette époque-là.
On parlait de Jan Hus il y a un instant, Jean Hus, plus connu sous ce nom en français. Est-ce que ces liens au niveau religieux ont permis aux Suisses et aux Tchèques de renforcer leurs relations? On sait que plusieurs Tchèques sont allés étudier à la faculté de théologie protestante de Bâle. Est-ce que ces liens sont forts ?
Alors, il y a des choses assez étonnantes dans l'histoire de Hus. D'abord, il a été prisonnier dans un château qui aujourd'hui se trouve en Suisse, avant d'être exécuté à Constance, dans le château de Gottlieben. Et puis, bien entendu, les Hussites, persécutés ou chassés de Bohême, sont venus assez fréquemment et dans tous les pays d'Europe occidentale, y compris à Bâle. Les frères Moraves également sont présents un peu partout. Il y a des rencontres documentées qui montrent que des missionnaires ou des sortes de porteurs du message hussite avait une action même dans les pays suisses. Il faut savoir que à l'époque de la réforme, entre autres, les positions en matière religieuse ne sont pas aussi fixes et aussi fermes qu'on pourrait l'imaginer. Il y a des régions aujourd'hui considérées comme catholiques qui ont passé au protestantisme pendant plusieurs années. Il y a énormément de prédicateurs d'un peu toutes les obédiences qui sont en Suisse à ce moment-là. Et le hussitisme, et ainsi que les frères Moraves et toutes les dénominations religieuses tchèques, on en trouve des traces aussi bien à Bâle qu'en Suisse romande, qu'un peu partout en Suisse, même si encore une fois c'est très ponctuel, c'est très anecdotique, mais en tout cas ça existe.